3, 4. 3, 4. Les histoires intercalées.
Le conte de Saint.
4, 1.
Actorel.
À l'occasion du festival Actorel.
Bernard Ducarpio.
Le Quichotte de Noirmoutier.
Avenue Joseph Pidanguis.
L'occasion de le dans le grand Quichotte au cœur du temps.
Actorel.
Quichotte. Changement à
Noël.
Festival Actoral, festival des arts et des écritures contemporaines qui se déplie à Marseille du 24 septembre au 10 octobre 2015 et qui se poursuivra ensuite à Paris. À cette occasion, Radio Grenouille vous propose de réécouter quelques émissions d'archives, notamment un entretien avec Jean-Michel Espitalier, poète, qui avait été enregistré en 2013 lors de l'édition 2013 du festival Actoral. Jean-Michel Espitalier qui est de retour à Marseille pour ce festival actoral. Il a présenté le 29 septembre à la Friche Belle de Mai une performance lecture autobiographie. Nous l'avions donc rencontré et nous avions réalisé avec lui un entretien d'une demi-heure pour comprendre comment ça raconte chez Jean-Michel Espitalier, de la même manière que nous vous avions proposé, toujours pour cette édition du Festival Actoral, un entretien avec Jérôme Gamme, qui est parrain de ce festival, où là aussi il s'agissait de tenter de comprendre comment ça raconte chez Jérôme Gamme. Donc, comment ça raconte chez Jean-Michel Espitalier, entretien archive réalisé en 2013.
Les documents de la grenouille. Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Entretien avec Jean-Michel Espitalier, réalisé dans le studio de Radio Grenouille à l'occasion du Festival Actoral 13. Jean-Michel Espitalier est l'un des poètes contemporains qui a le plus modifié l'image attendue de la poésie. Il est représentatif d'une génération qui, proche en cela de l'art contemporain, opte pour des pratiques poétiques variées, construites, accumulatives et souvent drôles. Il entretient un rapport au texte, au son et à l'image. Poète inclassable, il joue sur plusieurs claviers et selon des modes opératoires constamment renouvelés. Listes, détournements, boucles rythmiques, prose des accès, faux théorèmes, propositions logico-absurdes, sophismes, tord le cou à la notion si galvaudée de poésie, en inventant des formes neuves pour continuer de faire jouer tout le bizarre de la langue et d'en éprouver les limites.
L'histoire est-elle l'instrument de notre liberté?
Ça ne va pas durer. Je suis né il y a 1,528,420 secondes, mais ça ne va pas durer.
Vous entendez un extrait d'autobiographie de Jean-Michel Espitalier. Et nous recevons Jean-Michel Espitalier. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Michel Espitalier, vous cultivez un rapport à l'écriture, au son et à l'image. Poète, Jean-Michel Espitalier?
Allez savoir. Poète, oui, mais moi, ce qui me dérange toujours un peu, ce sont les étiquettes qui, comme chacun sait, collent. C'est un peu comme les chewing-gums sous la semelle. Oui, poète au sens où, peut-être au sens le plus classique du terme, c'est-à-dire que poète, poésie, ça vient du grec poïen, qui veut dire fabriquer, faire. Alors là, oui, je suis d'accord, parce qu'effectivement, j'ai vraiment l'impression de... Bien sûr que j'écris, donc je suis écrivain, c'est évident, mais dans un rapport un peu de bricolage, en fait, avec tout ça, quoi, hein. C'est pour ça qu'effectivement, comme vous le disiez très, très justement... En introduction, j'ai un rapport aussi au son, puisque je viens aussi de la musique, et voilà, donc je bricole des objets qui passent par le livre, mais qui peuvent aussi passer par la performance, le son et l'image, bien
sûr. Alors, poète bricoleur, est-ce qu'on peut dire aussi poète pop ?
Oui, sans doute, parce que je m'intéresse pour une question de génération, quoi. Je suis un enfant du rock, donc aussi un enfant de la pop culture, hein. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui la culture sérieuse, en fait, est très, en tout cas, a intégré toute la pop culture, hein. Ça peut être dans le cinéma, la vidéo, les arts plastiques, le rock and roll, la BD, la pub, etc. Donc effectivement, on peut pas faire l'économie de toutes ces expériences esthétiques.
Alors, vous avez été cofondateur de la revue Java, une revue qui existait de 1989 à 2006, cofondateur avec Jacques Sivan, une revue dont le premier numéro avait pour sous-titre « Revue de mauvais genre ». Est-ce que, pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette revue, vous pouvez nous dire un peu quelle était la singularité de cette revue ?
En fait, la revue s'est créée sur un constat qui était le suivant. On est dans une époque, donc la fin des années 80, une époque un peu de je dirais presque orpheline, c'est-à-dire qu'on y avait une sorte de rejet peut-être un peu systématique des avant-gardes. Et il y avait une sorte de tentation de retour à des formes beaucoup plus classiques. C'est souvent le cas d'ailleurs dans l'histoire, hein, quand on va d'un côté, après le balancier revient de l'autre côté, mais vraiment de manière très... Voilà. Et donc nous, on n'était pas satisfaits de ça, de cette situation. Et on voulait à la fois... On n'a jamais été dans une geste avant-gardiste. Ouais. Et on n'était plus dans cette lourdeur théorique, ces prescriptions, voire ces proscriptions, etc. Bon, forme dure. Mais ce qui nous intéressait, c'était de continuer l'expérimentation dans la langue, hein, voir ce qu'on pouvait encore bricoler, justement, hein, sans passer donc par ces lourdeurs, et en même temps voir un peu les choses qui se fabriquaient ici et maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait comment on pouvait les intégrer à ça, donc à cette espèce d'histoire. Et donc la revue s'est créée là-dessus, quoi, sur cette d'abord sur une réinterrogation donc des proches aînés qui venaient souvent donc de cette sphère avant-gardiste, enfin, qui est un terme aussi que je trouve tellement élastique, on sait plus trop ce que ça veut dire, des gens comme Denis Roche, Valéry Novarina, Christian Prigent, etc., ou les Américains, par exemple, on a fait un numéro sur les poètes objectivistes américains. Et puis par ailleurs, effectivement, être à l'écoute de ce qui se faisait dans la génération qui était la nôtre, quoi. Les gens d'une trentaine d'années, de gens qui n'avaient pas oublié, enfin qui étaient passés par la case avant-gardiste, mais qui en avaient, enfin qui l'avaient débarrassé de son côté justement très sérieux, quoi, au sens un peu chiant, quoi, au sens un peu prescriptif.
Et pourquoi l'avoir arrêté, cette revue ? Il n'y a plus de poésie expérimentale ?
Si, au contraire, justement, je pense qu'elle était... je pense qu'une revue, quand elle naît, elle doit... Doit mourir. Mais non, parce que je crois qu'on avait tout dit, dans l'espace de la revue, et puis voilà, je crois que l'époque a changé. Moi, j'avais l'impression de moins voir ce qui émergeait. La revue a quand même duré 17 ans, ce qui était pas mal. Et puis voilà, je crois qu'on était allé au bout de l'histoire. On aurait pu continuer, on peut toujours continuer, c'est comme les vieux couples, hein. On s'entend plus, tout va mal, mais on continue parce que voilà, par rapport aux enfants, l'appartement et machin, bon, c'est compliqué. Non, on s'est dit non, on va s'arrêter parce que c'est bon, c'est fini.
Alors, vous avez publié une anthologie de la poésie française aujourd'hui, c'était en 2000, ça s'intitule Les pièces détachées, et puis vous avez aussi publié un panorama de la poésie française aujourd'hui en 2006, Caisse à outils. Bon, ces deux anthologies, pourquoi ce geste-là de faire des anthologies? Alors, de la poésie?
La première l'anthologie qui est parue en 2000, effectivement, c'était un peu un prolongement de Java, d'ailleurs, je le dis dans ma préface, en fait, c'était aussi voir comment... Il y avait une contrainte que je m'étais fixée qui était de ne publier dans cette anthologie que les auteurs qui avaient été publiés dans la revue, dans Java. Donc c'était une sorte d'excroissance de la revue, enfin en tout cas, à l'époque, la revue avait 12 ans, 11 ans. Donc il y avait ça. Il y avait aussi cette ambition de poser un peu les choses. C'est-à-dire, une anthologie, c'est quand même un moment... Alors, c'est très subjectif. C'est la mienne, l'anthologie. Effectivement, Mon meilleur ami, en fait, fera une anthologie différente. Donc il y avait cette part subjective, hein, c'est-à-dire c'est un livre d'auteur, c'est mon livre, hein, c'est le livre de Jean-Michel Espitalier. Mais en même temps, voilà, je voulais ouvrir un peu, poser un peu les choses sur ce que la revue avait défendu. Effectivement, les jeunes générations qui, dans leur écriture, en fait, voulaient continuer cette espèce d'aventure expérimentale. Et puis des plus anciens qui, pour nous, ont été fondamentaux. Je pense par exemple à Bernard Heitzig, des gens qui nous ont beaucoup travaillé. Donc il était absolument important que tous ces gens-là soient au même niveau dans un livre.
La poésie n'est pas une chose sérieuse, Jean-Michel Espitalier ?
La poésie est sûrement une chose sérieuse, mais moi ce qui m'a toujours un peu inquiété, c'est pour ça que je suis un peu, c'est mon rapport un peu compliqué au mot poète, poésie, poème, etc. Il y a quand même souvent un esprit de sérieux. Et moi ce qui me gêne, c'est que la poésie, pour moi la poésie n'est pas dans la sphère de la littérature, c'est pas un sous-genre de la littérature, c'est quelque chose d'autre. C'est pour ça que moi ce qu'on vit aujourd'hui ça m'excite, parce que effectivement il y a la poésie sonore qui est en même temps de la poésie des gens qui travaillent avec la vidéo, il y a des poètes qui font des bouquins et puis qui font aussi des performances, ça irrigue un peu tout quoi, et ça, c'est aussi irrigué par plein de choses.
Alors parfois la poésie peut être sérieuse, par exemple Army.
Le monde défile derrière une mire et dans les graduations de ma lunette de tir. Le temps ici tourne différemment. En nu mortel ou accélération des battements de cœur à 200 pulsations minute. On passe d'un état à l'autre en une fraction de seconde et de vie à trépas en beaucoup moins que ça. Tout va toujours très vite. Tout est toujours trop lent. Depuis mon arrivée dans ce pays, je ne reconnais plus ma vie. Nous circulons à pied ou à bord d'engins semi-blindés. Patrouille, surveillance, mission de sécurisation ou de reconnaissance, escorte, perquisition, renseignement. Le danger est omniprésent. Palmeries pièges, bas-côtés truffés d'engins explosifs improvisés, routes peu sûres, immeubles inachevés ou en ruine depuis lesquels les snipers, toujours plus nombreux, nous prennent pour cible. Terroristes mobiles dans les dédales des faubourgs et des villages, marchés ou flânes de potentiels kamikazes, densité du trafic qui nous oblige à neutraliser les véhicules qui s'approchent trop près des convois. Nous sommes engagés dans une vaste opération de contre-insurrection. Le commandement appelle ça gestion des conséquences. Les accrochages sont moins nombreux que je n'avais imaginé, mais le danger surgit presque toujours au moment où nous nous y attendons le moins. Nous devons constamment nous sentir en situation de combat, sur nos gardes, et anticiper toute attaque surprise. La menace est partout palpable. Nous pouvons nous tenir embusqués pendant des heures sur une terrasse ou un toit d'immeuble, à surveiller un lieu suspect, et plier bagages pratiquement sans avoir tiré un seul coup de feu. Nous sommes en liaison constante avec le QG, mais aussi l'hélicoptère de mission et les drones qui balayent la zone avec leurs caméras ultra puissantes et diffusent sur de petits moniteurs des images analysées en temps réel. Au moindre mouvement, nous tirons. Il y en a toujours un parmi nous pour lâcher de temps en temps une petite rafale au jugé sur les maisons qui se trouvent dans nos lignes de tir. Tout véhicule circulant dans le périmètre est immédiatement neutralisé. Nous sommes suréquipés. Gilets pare-balles, casque lourd muni de lunettes périscopiques, liaison radio individuelle, GPS, fusil d'assaut 30 coups automatique avec lance-grenade, lunettes de précision et lunettes infrarouges pour les missions. Armes de poing, lame de baïonnette et la arme blanche à la ceinture, poignard ou petit sabre de combat, sacoche de munitions, bouteille d'eau vitaminée à portée de la main, aliments hydratants et énergétiques, trousse de premier secours. Il fait toujours très chaud ici, jusqu'à 50 degrés au cœur de l'été, et nous sommes vêtus en conséquence. Treillis en toile légère, aérée, ranger sous lunettes de soleil. La maintenance des équipements est top niveau. Les conditions d'hygiène sont irréprochables. Le commandement a tout prévu pour faire de nous de bons soldats. Au camp principal, nous bénéficions de matériel de communication ultra moderne, télévision satellitaire et internet. Nous passons la plupart de nos temps de repos à faire devant nos consoles de jeu ou à surfer sur internet. Emails, porno, simulateurs de combat. Nous ne manquons de rien.
À entendre cet extrait de Army, Jean-Michel Espitalier, on se dit on est loin d'une certaine idée de la poésie, non ?
En fait, c'est une prose, c'est un texte qui est une série de descriptions donc très froides, hein, très objectives, de scènes de guerre, principalement en Irak, en 2003, lors de la guerre d'Irak de 2003. Donc des scènes que j'ai prises sur Internet. Donc c'était une réflexion sur comment la guerre se raconte aujourd'hui. Et alors j'ai inventé un personnage, un jeu ou un on parfois, hein, qui n'existe pas bien sûr. Donc c'est le même personnage en fait qui raconte sa guerre, mais en fait ce qu'il raconte ce sont principalement des vidéos que j'ai chopées sur YouTube ou sur les sites officiels de l'US Army, des Marines, des sites des armées privées, etc. Ou sur le site du New York Times, etc. Donc il y a une espèce de collage en fait de scènes de guerre, donc qui raconte une guerre qui est On comprend que c'est l'Irak parce qu'il fait 50 degrés au cœur de l'été, comme il le dit. Il y a des palmiers de temps en temps, mais c'est pas un livre sur l'Irak. Il y a aussi des scènes du Vietnam que j'ai décrit. Il y a des scènes d'Afghanistan. J'ai même pris une scène, je me souviens plus exactement ce que c'est, mais sur la Première Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'est une sorte de patchwork qui donne une espèce d'idée de ce qu'est la guerre en général. Voilà.
Alors si la poésie sert ou permet quelque chose, ce serait de redire justement redire le monde, de le Le redire autrement.
Oui, je pense que la poésie sert à ça. Enfin, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. j'en suis pas toujours sûr. Et peut-être tant mieux si ça sert à rien. Mais en tout cas, oui, c'est une sorte d'outil cognitif ou d'exploration, quoi. C'est-à-dire avec le langage. Je me souviens très bien, un jour, j'étais avec mon éditeur, j'étais avec Laurent Covey. On était à Paris, on prenait un verre et je racontais cette histoire-là, donc ce livre, à quelqu'un qui était un homme d'image. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas ça avec une vidéo? Là, je lui ai répondu, je dis, mais parce que je suis écrivain, je suis pas vidéaste. Voilà, donc moi je travaille avec mes outils.
Vous avez publié un livre qui s'intitule « Toujours jamais pareil » au bleu du ciel en 2005. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on peut lire sur vous, que vous n'êtes toujours jamais pareil.
Alors c'est un livre avec Pierre Mabille, hein, qui est artiste, qui est peintre. Et c'est une sorte d'accompagnement de son œuvre. Moi c'est un travail que j'aime beaucoup, qui marche beaucoup sur la couleur. Et aussi une amitié, parce qu'on est vraiment des vieux copains. Et en fait, il a eu... Donc ce livre, c'est un peu une sorte de catalogue un peu raisonné de son travail, de son œuvre. Et donc, on a fait une sorte d'entretien un peu dingue, tous les deux, donc, qui joue aussi beaucoup sur les syllogismes. Toujours jamais pareil, c'est quelque chose qui tourne un peu en boucle. C'était aussi une façon pour moi de présenter son travail, toujours pareil, avec mes armes, à moi. Hein, et puis, bon, de lui rendre hommage, mais un hommage pas du tout emprunté, pas du tout guindé, quoi. C'était aussi, parce que c'est très déconnant comme dialogue, mais je pense que ça va aussi au fond des choses avec c'est pour ça que, pour revenir à cette question du sérieux, il s'agit pas de pas être sérieux dans le travail, mais voilà, il faut toujours se remettre en question et se remettre en jeu, quoi.
Toujours jamais pareil aussi, parce que là on parle de la poésie, mais vous êtes aussi musicien, batteur, et je crois savoir que vous avez notamment travaillé avec Casper Toplitz ou Noël Achoté, pas forcément à l'endroit de la batterie, mais en tout cas voilà, il y a des rencontres avec le monde de la musique. Et vous avez également réalisé de pièces sonores, comme on vient de l'entendre, ou également des ateliers de création radiophonique. Justement, la radio, c'est un média qui vous intéresse ?
Ah oui, beaucoup. Ouais, ça m'intéresse beaucoup et moi j'ai fait donc une pièce sonore sur Syd Barrett, donc le fondateur de Pink Floyd, en 2007-2008, donc un ACR France Culture, et j'ai beaucoup aimé cet outil. Et alors je m'y intéresse de manière... On avait publié un dossier sur la création radiophonique dans Java, d'ailleurs, il y a très longtemps, et moi ça m'intéresse beaucoup, c'est un outil qui m'intéresse beaucoup. J'en parle avec très peu de science parce que je connais très mal, mais par exemple je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelait les Hörspiel, hein, allemands, parce que la radio, la radio est une spécialité allemande. Oui, c'est un outil qui m'intéresse, parce qu'en plus on touche des gens, enfin, il y a quelque chose d'un peu d'aveugle, on ne sait pas qui on touche, là, je ne sais pas qui m'écoute, et en même temps voilà, on produit quelque chose, enfin, c'est si, moi je trouve ça assez...
Vous seriez prêt à rejouer, par exemple, une radio de flux, à la remettre en critique? Parce que la radio, il y a les émissions, mais il y a la radio comme aussi radio de flux, ce qui n'est évidemment pas tout à fait la même chose. Ouais, est-ce que la radio de flux, c'est aussi quelque chose qui vous questionne et vous intéresse?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans la radio, c'est cette simultanéité, quoi. C'est quelque chose qui ça part, quoi, mais ça part loin, c'est pas une performance, c'est pas de la scène. Quand je fais de la scène, je vois les gens, je vois les réactions tout de suite, enfin il y a quelque chose, il y a un retour immédiat, il y a un feedback mais alors que la radio, moi c'est ça que moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs j'ai publié un livre qui s'appelle De la célébrité, sur la question de la célébrité, et à un moment j'ai une double page sur les hommes de radio connus, et en fait la double page elle est noire. Et il y a juste comme des bulles de BD avec les noms de ces gens-là. En fait, souvent, ils n'ont pas de visage. On ne sait pas qui c'est, alors que leurs noms sont très connus. Et je n'ai plus en tête, mais enfin voilà. Et moi, j'aime bien cette espèce de rapport au noir, quoi.
Le rapport à la musique aussi, est-ce qu'on peut dire que votre écriture a à voir avec le rock ?
Je sais pas. Oui, sans doute, parce que c'est quelque chose. Pour moi, c'est une influence fondamentale d'un point de vue esthétique, intellectuel, mais aussi d'un point de vue affectif. Moi, c'est quelque chose qui me. Enfin, moi, je suis un vieux fan des Beatles, alors que les Beatles, je les ai pas connus puisqu'ils s'étaient séparés. Ils s'étaient séparés depuis longtemps. Enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté et je me suis beaucoup inspiré dans mon écriture, en fait, de gens comme Frank Zappa, les Beatles,
ça joue dans le rythme.
Ça joue dans le rythme, ça joue aussi dans des procédures d'écriture. Par exemple, moi, ce que j'aimais beaucoup chez les Beatles, c'est le l'autocitation. Hein. En 68, ils vont mettre deux mesures de She Loves You qui est sorti en 63. Une espèce de clin d'œil à soi-même, de la parodie, comme chez Zappa, quoi. On est dans la parodie, dans l'autodérision, presque dans le collage, dans l'emprunt, enfin voilà.
Vous parlez de ce livre sur les célébrités que vous avez édité. La question des stars, des célébrités, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent dans certains poètes contemporains, comme je pense à Christophe Yat ou à Anne-James Chaton, dernièrement à Véronique Bergen, qui a publié un livre chez Aldin qui s'appelle Eddie, donc chez vous aussi. Quel est ce rapport de la poésie aux stars ?
Ben, moi, je crois qu'en fait, on est tous intéressés par les stars. On est tous fascinés par ça. Je vais vous raconter une très courte anecdote. J'étais un jour sur une télé web à Paris, sur une péniche, il y a 2 ans. On peut dater exactement, vous allez voir pourquoi. On peut dater exactement donc, ce jour. Et donc, je parlais de mon livre sur Syd Barrett. Et le journaliste, en fait, me prend un peu de haut. Il me dit, ouais, mais enfin, c'est un peu bizarre d'être comme ça fasciné. Cette espèce de culte aux stars, c'est un peu à 2 balles. Les gens qui pleurent à la mort de Michael Jackson, etc. Et bon, donc je me défendais comme je pouvais. Et à ce moment-là, il y a un flash qui tombe et on apprend la mort d'Amy Winehouse. Et le type qui venait de me dire ça, il me dit, bon, il dit à l'antenne, 1 minute de silence pour Amy Winehouse. Donc on est tous dans ce truc-là, quoi, qu'on le veuille ou non.
Effectivement. Je propose d'écouter Animal.
L'hibiscus n'est pas un animal. Le feuillard n'est pas un animal. Le mascarpone n'est pas un animal. Le chien-dent n'est pas un animal. La gangrène n'est pas un animal. L'hydrocotyle n'est pas un animal. La crécelle n'est pas un animal. La chicotte n'est pas un animal. La varlope n'est pas un animal. L'oxymore n'est pas un animal. La huche n'est pas un animal. L'osselet n'est pas un animal. La gerbe n'est pas un animal. L'agora n'est pas un animal. L'aile-bœuf n'est pas un animal. Le nasillard n'est pas un animal. La bâche n'est pas un animal. Le centiard n'est pas un animal. Le pigeon n'est pas un animal. La guêpière n'est pas un animal. L'acanthe n'est pas un animal. Le grouillot n'est pas un animal. Le tumouche n'est pas un animal. Le havre n'est pas un animal. La peluche n'est pas un animal. Le vilebrequin n'est pas un animal. L'orpailleur n'est pas un animal. La tabatière n'est pas un animal. Le cidre n'est pas un animal. La baudruche n'est pas un animal. Le rein n'est pas un animal. Le huguenot n'est pas un animal. La gigogne n'est pas un animal. La gifle n'est pas un animal. La crassule n'est pas un animal. La grappe n'est pas un animal. La papardelle n'est pas un animal. Le manchetouc n'est pas un animal. Le sifflet n'est pas un animal. La lasagne n'est pas un animal. Le gourdin n'est pas un animal. L'enclume n'est pas un animal. La verve n'est pas un animal. L'opinel n'est pas un animal. La gueuse n'est pas un animal. Le cercueil n'est pas un animal. La pisse n'est pas un animal. La gazette. Welbeck n'est pas un animal. La chèvrefeuille n'est pas un animal. L'hurluberlu n'est pas un animal. Le vérin n'est pas un animal. Le l'onglet n'est pas un animal. Le passe-cuvette n'est pas un animal. L'oklahoma n'est pas un animal. La escabèche n'est pas un animal. Le canulaire n'est pas un animal. L'escarreuse n'est pas un animal. Le cerfeuil n'est pas un animal. Le grégaire n'est pas un animal. Le heurtoir n'est pas un animal. La zézette n'est pas un animal. La dirondac n'est pas un animal. La gazette n'est pas un animal. La cravache n'est pas un animal. Le gligame n'est pas un animal.
La liste, Jean-Michel Espitalier.
Ben, la liste, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup comme lecteur. J'aime beaucoup les gens qui font des listes. Et puis aussi, j'adore faire des listes parce qu'il y a quelque chose qui se produit à un moment. C'est assez crétin de faire une liste. On fait des listes quand on va faire les courses, quoi. On fait la liste des courses. Et comment introduire ça, enfin, comment injecter donc, ce geste d'écriture en fait, dans un espace dit littéraire ou poétique, etc. J'adore cette simplicité. Qui est toujours assez compliqué justement à gérer. Quand c'est simple, c'est compliqué. Quand c'est trop simple, c'est compliqué. Parce que voilà. Donc moi, une liste, c'est un dévalement lexical. Enfin, il y a quelque chose comme ça, un flux, un inventaire, et qu'il faut toujours un peu retraire. Qu'il faut toujours un peu. Moi, j'aime souvent ce que je dis quand je fais une liste. Il faut créer un petit moteur. Quoi. Il y en a plein des moteurs. On connaît les Je me souviens de Georges Perec. Donc le petit moteur, c'est Je me souviens, en fait, qui fait qu'à un moment, il y a quelque chose qui se met à marcher.
Une sorte de ritournelle.
Ouais, une sorte de ritournelle. On trouve ça beaucoup chez Valère Novarina, hein, sous forme de théâtre, enfin, de dialogue, en fait, etc. Bon, là, par exemple, il y a une liste de noms qui pourraient être des noms d'animaux, enfin, en tout cas, dans un imaginaire linguistique. Et justement, je dis que ce ne sont pas des animaux. Et le fait de dire que ce n'est pas des animaux, ça crée le doute aussi. Voilà. Donc,
La liste, c'est une vieille histoire avec la littérature Rabelais. Hein. Des listes.
Même la Bible, ça commence assez loin. Il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup dans la poésie, mais aussi dans le théâtre, dans le roman. On trouve des listes partout.
Jean-Michel Espitalier, il peut arriver parfois que des livres s'écrivent à partir d'un texte de commande ?
Oui, ça m'est arrivé. D'ailleurs, c'est toujours assez excitant. Livre ou texte, d'ailleurs, mais c'est toujours assez excitant parce que, en général, la commande, elle vous convient pas. Vous dites, mais c'est quoi ce truc ? Non, pas moi. Je vois où vous voulez en venir, d'ailleurs. Mais et ça crée un challenge. C'est quelque chose où il y a une vraie contrainte et c'est assez excitant.
Parce que, par exemple, ce dernier livre, L'invention de la course à pied, il me semble qu'il est parti d'une commande.
Il est parti d'une commande et donc je l'ai pas mal retravaillé pour le sous le titre L'invention de la course à pied. C'était une commande donc de Laurent Covey et pour une collection d'architecture donc qui était co-dirigée par Rudy Ricciotti. Dont le principe était un écrivain travaille sur un projet architectural. Et moi, Laurent Covey m'appelle, il me dit, écoute, est-ce que ça te dirait de tenter l'expérience? Je lui dis, ok. Il me dit, c'est sur les stades. Moi, je ne m'intéresse pas du tout au sport. Alors, évidemment, je lui dis, attends, non, pas moi. Et puis, en fait, je me suis dit, si, moi, puisque justement, je ne connais pas tout. Enfin, je ne connais pas. Donc, il y a toujours un truc qui se met à résister. Et c'est là, en fait, où on est... Enfin, j'aime beaucoup ça, les commandes.
Est-ce qu'on peut dire que ce livre, L'invention de la course à pied, c'est un théorème?
Peut-être que toute littérature est théorème, dans la mesure où elle propose quelque chose d'un peu fixe, quoi, je ne sais pas.
Il y a les théorèmes des Spitaliers.
Il y a les théorèmes des Spitaliers, oui.
Il y a une de vos gestes qu'on retrouve régulièrement dans vos livres, c'est la disparition, l'effacement de la page. D'ailleurs, l'éditeur Laurent Covey m'a confié que ce livre est revenu en masse chez l'éditeur parce qu'il pensait qu'il y avait un problème d'impression. Mmh. Pourquoi cette disparition ?
Alors le principe typographique ou oral, disparition de la voix, est assez simple à faire, mais j'aime bien les choses qui se... les fade out, quoi, les choses qui disparaissent comme ça. Moi je suis assez... En fait je me suis rendu compte, et c'est ça aussi qui est assez génial quand on écrit, c'est qu'on apprend à se connaître. C'est-à-dire que moi j'ai, au fil du temps, je me suis en me retournant sur mes premiers bouquins, etc., je me suis rendu compte que j'avais des obsessions qui n'étaient pas du tout conscientes. Par exemple, la guerre. La question de la guerre, c'est quelque chose qui m'obsède. J'en savais rien. Et cette question de la disparition, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, j'ai écrit donc ce bouquin sur Syd Barrett, qui est quelqu'un qui est un peu comme Rimbaud, quoi. C'est quelqu'un qui disparaît en pleine gloire. À 22 ans, il se barre de Pink Floyd, il est au sommet de sa gloire, et il rentre chez sa maman à Cambridge pour tomber dans la pelouse. Et pendant 30 ans, il disparaît. Donc ça devient un mythe vivant, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et la disparition du texte, c'est aussi une façon de le faire. Parce que s'il disparaît, le texte, il ne s'arrête pas, quoi. Donc il y a quelque chose qui est un peu comme la liste. Ça, c'est infini. Il ne s'arrête pas.
Il y a une vraie logique hein, dans ce livre, L'invention de la course à pied, une logique implacable. On rit beaucoup, beaucoup. Et puis à un moment donné, on cesse de rire comme on a ri avant. On commence à rire jaune, on commence à être très mal à l'aise. C'est un procédé aussi que vous utilisez, celui-ci de nous faire rire et puis après de nous faire rire.
Oui, j'aime bien piéger mon lecteur, mais j'aime bien parce qu'on est tous piégés par la vie. Quoi. La vie, c'est génial, mais en même temps, on sait que ça va mal finir, quoi. Ça va mal tourner. Il y a toujours, je crois, cette espèce d'obsession. Tout à l'heure, on a écouté donc c'est un extrait d'autobiographie qui est un titre aussi très dans l'autodérision, mais cette obsession du temps qui passe, enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que. Moi, j'aime bien le rire jaune parce que le rire jaune, c'est vraiment le moment où on est à poil. Quoi. C'est-à-dire que c'est comme quand moi je prends toujours cet exemple, quand vous racontez une blague à des copains et puis personne rigole, c'est quand même un moment assez violent, assez dur, parce que le rire en plus c'est quelque chose qui est fait pour créer du lien, etc. Et donc j'aime bien cette espèce de rapport entre on se marre mais en même temps c'est tragique.
Vous dites aussi que vous travaillez les conditions de l'échec de votre propre machine à écrire.
Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment le texte en fait va... Alors soit il va retrouver le tragique consubstantiel à la vie, soit il va le générer. Quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, dans ce livre-là, effectivement, ça finit très mal. Ça finit très mal sur des images très violentes, alors que le texte parle plutôt de manière très marrante. Enfin voilà. Et toujours besoin à un moment d'une sorte de rappel à l'ordre. Hein. Et de même que ce rappel à l'ordre, j'aime bien aussi le miner par des choses beaucoup beaucoup plus marrantes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un effet de balancier.
Quoi. L'ironie, c'est un procédé critique.
L'ironie, c'est un procédé critique, absolument. Et puis. Je dirais qu'il y a de l'ironie, mais il y a peut-être du comique, peut-être même plus que de l'humour. C'est-à-dire, moi, j'aime bien cette question du comique. L'humour, c'est très intelligent, c'est très travaillé, etc. Bon, bien sûr, il y a de l'humour. Mais peut-être le comique, c'est un peu plus gras, un peu plus... Je ne suis pas dans une esthétique du gras, mais peut-être quelque chose d'un peu plus le ratage, le truc un peu mal foutu, voilà, qui nous fait partir ailleurs.
Quoi. Merci Jean-Michel Espitanier d'être venu.
Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.
Important, comment pour accéder à cette matière-là, et que l'écriture qui ne s'arrête pas de transgression, des formes d'émancipation à l'inventaire, de subversion, où l'enjeu de l'écriture devient aux instruments de libération. importante transgression.
On continue dans les archives de la radio et du festival Actoral et nous vous proposons maintenant eh bien, d'entendre Mustapha Benfedil. Mustapha Benfedil que nous avions rencontré là aussi en 2013 à l'occasion d'un plateau que nous avions organisé à Montevideo où il y avait Hubert Collat, Paul-Emmanuel Audin, Laurent Covey. On avait entendu la voix de Bernard Haitzik, on l'avait eu au téléphone. Mustapha Benfedil, Lina Sané, Liliane Giraudon et Mathieu Riboulet. Et c'était un plateau de 2 heures. Et donc, nous vous proposons de réentendre la partie avec Mustapha Benfedil, le dialogue que nous avons eu. Mustapha Benfedil, poète et également journaliste au journal algérien El Watan, donc de retour pour cette année au festival Actoral. Il a donné une lecture le 5 octobre au cinéma Les Variétés, Algérie. Journal intense, une femme, un homme, le cadavre de l'homme, mort dans un accident de voiture un jour d'élection présidentielle. Un lit, une nuit, des tas de feuilles sur le lit, étalées par la femme. Des carnets, plutôt. Le journal de son homme. Diariste infatigable. Dans le journal de l'homme, s'égrènent les jours saccagés, les luttes clandestines et les dessins exaltés depuis le soulèvement du 5 octobre 1988. La femme lit et son homme revient, plus vivant que jamais, mais si étranger. Entre eux, la guerre jamais dite, jamais prononcée. Que faire de ce corps en papier, ce cadavre bavard et envahissant? Que valent les mots, couple, vie conjugale, deuil, paix, quand l'amour devient une guerre civile?
Les documents de la grenouille. Tous les podcasts des 3-8. Radiogrenouille.com.
Mustapha Benfedil, bonsoir. Prenez un micro, je vous en prie.
Bonsoir, Guillaume.
Très heureux de vous avoir ici à Montevideo dans cette émission. Je vous présente très rapidement Mustapha Benfedil. Vous êtes auteur de dernièrement 2 livres ici aux éditions Aldinte, Le point de vue de la mort. Archéologie du chaos amoureux. Vous avez écrit de nombreuses pièces de théâtre et vous êtes également journaliste au quotidien El Watan. En faisant quelques recherches, j'ai eu l'occasion de découvrir que dans votre travail poétique, vous avez été marqué par un moment, un événement qui a sans doute joué dans votre écriture, qui a été en 1993 l'assassinat de Tahar Djaout. Mm-hmm. Peut-être nous dire comment cet assassinat de ce poète il était d'ailleurs aussi journaliste. Et comment donc cet assassinat a modifié votre écriture ?
Je dirais que c'est un assassinat fondateur dans la mesure où, aussi absurde que cela puisse paraître, c'est une forme d'hommage. C'est un hommage par l'absurde. On s'est toujours posé la question à quoi servent les littératrons, les littérateurs ? Et là, vous avez la réponse. Vous flinguez un écrivain, ça veut dire que quelque part, sa parole a porté.
Parlez bien près du micro.
Et pour moi, c'est. Moi qui me suis toujours. Parce que moi, disons, dans mon cheminement, dans ma généalogie, je viens des mathématiques, je viens de l'astronomie. Je suis venu un peu à la poésie pour peut-être rechercher d'autres manières, disons, d'être au monde. Et là, j'avais une forme de réponse. C'était, je le rappelle, dans un contexte où on était confronté à un grand récit qui est l'islam, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique. Et puis au-delà de ça, il y avait un grand problème de société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va foutre de l'indépendance ? C'est-à-dire, on s'est toujours posé la question en Algérie, et aujourd'hui encore on se la pose, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ce pays-là. Et il y a eu en gros 2 grands récits qui sont toujours confrontés. C'est un récit gauchisant et puis un récit islamiste. Et Djaout, il s'est retrouvé pile poil entre les deux. Et puis lui, je pense que c'est quelqu'un qui a. D'ailleurs, je souligne que cette année, on célèbre les 20 ans de sa mort. Donc c'est quelqu'un qui a justement peut-être trouvé la formule. C'est-à-dire une poésie qui n'est pas de scrupules pour s'impliquer. Et dans ce sens, je peux dire que pour moi, c'est une forme de sémaphore. Parce que nous, on a peut-être d'autres questionnements. C'est-à-dire, là où en France, on se pose des questions par rapport à l'inventivité de la langue, par rapport à ce que signifie être poète, par rapport au pouvoir, par rapport au marché, par rapport à... Et disons qu'en Algérie, la question même de la poésie, elle a été quelque chose peut-être qui passait pour superflu, pour une histoire peut-être qui était totalement anodine. Et l'assassinat de Djaout, brutalement, il a peut-être d'une certaine façon légitimé l'acte poétique, en disant que le poète, c'est aussi de l'action, ce n'est pas que du dire, ce n'est pas... que du blabla, voilà. Et moi, c'est dans ce sens peut-être que ça a déclenché chez moi quelque chose. Bon, j'avais commis entre guillemets un texte qui s'appelait À la santé de la République. C'est un texte, je peux le dire, qui était engagé. Mais je dois aussi dire que il n'y a pas eu que Djaout. C'est-à-dire, Djaout, il s'inscrit dans un mouvement dont je me réclame, qui est celui de dire si je dois me tromper, je préfère me tromper esthétiquement que politiquement.
Il était, comme je le disais, poète et journaliste, et je crois que c'est une dualité complexe aussi pour vous, journaliste et poète.
C'est un conflit permanent. Ce n'est que dernièrement que j'arrive justement, à travers par exemple ce texte, Le point de vue de la mort, où à la base c'est une enquête, donc deux journalistes. Parce que journaliste, pour moi, ça m'a toujours posé problème. Pour moi, journaliste, parce qu'il y a l'individu journaliste, il y a le système. L'individu, il peut être porteur d'une forme de révolution, mais le système m'a toujours emmerdé.
Vous dites, il vous est arrivé de dire qu'en tant que journaliste, finalement, vous avez un rapport politique plus militant en tant que journaliste, alors que la littérature, c'est davantage un reportage du dedans.
Du dedans, oui.
C'est un peu comme ça que vous...
C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux de conflit. Par exemple, il y a le conflit de la langue, déjà. Parce que là où le journaliste est sommé de nommer le monde, en s'astreignant une forme de rapport militaire signifiant-signifié, le poète, lui, va précisément casser ce rapport. Essayer de faire passer d'autres niveaux de réalité. Et puis, il y a le rapport au pouvoir et le rapport aussi à la liberté. Et moi, je ne suis parti là-dedans que précisément pour essayer de détourner ces espaces médiatiques qui sont des espaces de pouvoir pour peut-être faire passer ce que j'appellerais une parole populaire. Donc c'est, pour moi, c'est à ce prix-là justement que la carte de presse peut agir. Sinon, ça devient juste un privilège et en tant que position de pouvoir, moi ça me gêne un petit peu. Voilà.
Le point de vue de la mort, c'est aussi un livre qui réconcilie le poète et et le journaliste.
C'est-à-dire que dans tout mon travail, il y a toujours une partie documentaire. Et pour moi, justement, le journalisme, c'est peut-être c'est un très bon canal justement pour accéder à cette matière-là, ce matériau. Mais à charge pour moi de faire de ce matériau justement quelque chose qui ne s'arrête pas à l'inventaire et qui propose des formes d'émancipation, des formes de transgression, de subversion par l'écriture précisément. C'est là où l'enjeu de l'écriture devient important et que l'écriture fabrique ses propres outils de pensée et ses propres instruments de libération.
Sur le point de vue de la mort, peut-être il faudrait préciser, hein, ça se situe dans une sorte de ville imaginaire qui s'intitule Balbala, mais le titre n'est que le côté imaginaire, disons, de cette ville n'est uniquement anecdotique, car il s'agit aussi d'une critique réelle de la société, puisqu'il s'agit aussi de tout un contexte où il y a une sorte de révolte très forte à l'égard de la part de ceux qui n'ont pas accès au travail. Et cette révolte finit par cette phrase « J'ai allumé mon corps pour le regarder vivre
». Oui, « J'ai allumé mon corps », c'est un hommage à René Char, « J'ai allumé toutes les forêts pour le regarder vivre ». En fait, à l'origine, c'était un texte poétique qui s'intitulait « Indigné » avec un slash au milieu, parce que on disait, surtout il y a eu même des imams, donc des religieux, qui disaient Si vous vous immolez, vous irez en enfer, on les culpabilise, on fait passer ces gens-là pour des écervelés, pour des dépressifs. Et moi, je voulais justement leur rendre leur dignité en disant « c'est d'abord un acte d'indignation ». Et dans ce texte, en fait, il y a deux, on va dire deux mouvements incarnés par deux personnages qui sont d'apparence assez contradictoires. Il y a un type qui s'appelle Moussa, qui est morguiste donc dans un hôpital, et qui s'est voué à rendre aux morts leur dignité. Et puis il y a un autre qui est, un activiste, il s'appelle Aziz. Et moi, je voulais, à travers ces deux portraits, restituer quelque chose qui est de l'ordre de la lutte, même quand elle n'est pas encadrée et encartée et spectaculaire. C'est-à-dire à travers le personnage, par exemple, de Moussa, qui, lui, il s'est retiré du monde et qui s'est voué à rendre leur dignité aux morts. Moi je trouve dans ce personnage la parfaite incarnation de tout un pan de ce que j'appellerais, que ce soit en Algérie ou dans mon âme, les militants du quotidien. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui vont faire du discours, mais c'est des gens qui agissent loin des médias, qui agissent d'une manière peut-être assez discrète, mais qui, au quotidien, sont en train de résister. Donc pour moi, il était important de relever justement ce type d'engagement.
J'ai cru comprendre aussi, ou j'ai cru savoir aussi, que vous aviez fait l'objet d'une censure lors d'une exposition.
Oui, effectivement.
Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de ce...
Vous êtes vachement bien renseigné. Oui, c'était en fait un travail que j'avais fait c'était à la Biennale d'art contemporain de Chalja. Je trouve que j'ai été invité pour monter une installation dans cette Biennale. Et puis, entre la direction, on va dire, en gros, entre les curators, les directions artistiques et les détenteurs du pouvoir politique, il y a eu un clash. Parce que la direction artistique elle adhérait complètement à ma proposition, qui était en fait de montrer un petit pan de mon travail qui est relatif à, on va dire, qui fait écho à ce qui se passait à l'époque dans le monde arabe, parce que je rappelle, c'était en mars 2011, c'était il y avait Ben Ali qui était tombé, il y avait Moubarak qui était tombé, donc pour moi il était impensable que j'aille là-bas et que je ne parle pas de ça, donc c'est un travail qui fait totalement écho à ça. Et puis on va dire, l'émirat de Sharjah, il a très très mal pris cette prise de position, et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de carrément d'enlever cette installation. Je rappelle, c'est une installation qui est une parodie de match de foot avec des mannequins sans tête. Et les mannequins sans tête faisaient un peu référence à la guerre civile en Algérie. Voilà.
Vous aviez également, Mustapha, réalisé une pièce qui s'intitule Indigné.
Ben, c'est le point de vue de la mort, en fait. Indigné, c'est le titre du spectacle. Mais c'est, j'ai écrit une dizaine de pièces. Et Indigné, c'est une adaptation, on va dire, du livre Le Point de vue de la mort.
Vous avez participé au numéro 36 de la revue Ligne, qui avait pour titre Monde arabe, rêve, révolte, révolution.
Vous êtes très bien renseigné, encore une fois.
C'est mon travail.
Ouais.
Alors, aujourd'hui, monde arabe, rêve, révolte ou révolution?
La révolution, pour moi, c'est une construction. Donc, il serait vraiment naïf et illusoire de croire que on fait le job une seule fois, après le processus se poursuit tout seul. Il y a deux séquences importantes dans n'importe quel mouvement de cette ampleur, c'est mouvement de destruction et mouvement de construction. Donc, la destruction a été un moment paroxystique de soulèvement par rapport aux structures politiques, sociales, économiques qui étaient à l'œuvre, et puis au jour d'aujourd'hui, il s'agit de les remplacer par d'autres structures. Et donc, je pense que ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, dans une moindre mesure en Libye, et à peu près de cet ordre-là. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des dynamiques qui sont engagées depuis longtemps dans d'autres sociétés de la région, et et que c'est pas parce que c'est pas spectaculaire qu'il se passe rien. C'est le cas par exemple de l'Algérie où ces jours-ci on va commémorer le 25e anniversaire des événements d'octobre. Octobre c'était de très très grosses émeutes, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas Al Jazeera, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Donc moi si je bosse aujourd'hui dans un journal où je peux taper sur Boutef, où je peux taper sur l'armée ou sur les services spéciaux, c'est grâce à ces révoltes-là. Donc après, je pense au niveau sémantique, c'est le temps qu'il dira. Et puis, moi je dis juste que ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose d'extrêmement significatif. Donc, disons, je ne cède pas à l'euphorie, je sais qu'il y a du boulot, mais en même temps, je dis que quand même, on a franchi un palier.
Moustapha Benfeddi, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir peur de la représentation ?
À titre personnel, je peux déjà témoigner qu'il y a une forme d'angoisse qui s'empare des pouvoirs politiques. J'ouvre une parenthèse pour dire, si j'insiste sur le politique, c'est uniquement parce que c'est lui qui me cherche. Je n'en fais pas une obsession comme ça gratuite. Je vous donne juste une info. Moi, je suis auteur de plus de 10 pièces de théâtre. Aucune de mes pièces n'est jouée en Algérie. C'est pour dire que selon les espaces dans lesquels on se trouve, selon les sociétés, il y a évidemment des formes de peur de la représentation, parce que dans la représentation, il y a projection, c'est-à-dire qu'est-ce que ça projette, quelle est l'image que ça restitue de nous. Il semblerait qu'il y ait des sociétés, des groupes sociaux dans un pays ou un autre qui sont emmerdés peut-être par ces images-là que leur envoient les artistes. Et pour parler spécifiquement de l'Algérie, je cite juste un petit témoignage. Étant donc blacklisté, en 2009, j'ai lancé un concept qui s'appelait Pièce détachée, lecture sauvage, qui consistait en fait à c'était pas des représentations, mais juste à donner, à entendre mes textes. Et ça se faisait dans des espaces qui n'étaient pas estampillés culturels. C'est pour ça que j'appelais ça lecture sauvage, c'est comme une grève sauvage. Et à chaque fois, dans le public, j'avais des flics. Et souvent, je me retrouvais au commissariat pour m'expliquer sur ce que racontaient mes pièces. Et donc là, on n'est même pas dans une représentation en règle. Et même avec ça, ça leur a posé problème. Et c'est pour dire que il y a peut-être au niveau justement du pouvoir politique une forme, comme je disais tout à l'heure, de reconnaissance au pouvoir de l'art. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'hommage par l'absurde. Quelque part, oui, c'est vrai que on n'est pas dans le confort, on est carrément dans la précarité la plus totale. Mais quelque part, moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça me pousse à chercher pas seulement des espaces alternatifs, mais aussi peut-être moi-même à me remettre en question, dans le sens où je me pose toujours la question, à quoi sert l'artiste ?
Ça me fait penser à cette phrase très étonnante de Sartre qui disait que pendant l'occupation, nous n'avons jamais été aussi libres.
Absolument. Oui, mais c'est une forme de liberté, parce que disons que si j'étais dans le confort absolu, peut-être que je verserais dans une forme de paresse. Et moi, justement, ça me tient en éveil. Après, je n'ai pas du tout envie de verser dans la victimisation. Ça, je tiens à le souligner. C'est pas du tout dans ce registre-là que je m'inscris. Je dis juste que ce sont autant de challenges. Nous sommes déjà assez emmerdés de faire du beau avec du lait. Si en plus de ça, on doit changer le monde, ma foi, mais qu'est-ce qu'on ne nous demanderait pas de plus ?
Moustapha Benfeddi, l'ironie dans votre écriture est très présente, que ce soit le point de vue de la mort ou l'archéologie du chaos amoureux. Quelle fonction joue l'ironie ? C'est pareil, une fonction critique ?
Qu'il y a de la distanciation, mais je dirais d'abord que c'est un travail de plagiaire, c'est-à-dire je plagie en fait les miens, je plagie le peuple. Moi, je passe mon temps à recueillir des paroles sur le vif. Je les enregistre, et parce que c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans mon travail. Et puis je dirais que l'ironie, c'est aussi une forme d'humanisation ou de réhumanisation, parce que les gens qui ont de l'humour, en général, ils ont quand même de la sympathie. Donc c'est une manière de restituer un petit peu de sa sympathie à un monde qui est assez cruel quand même. Et puis c'est une forme aussi de, j'allais dire, de revanche, de vengeance. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du sadisme. C'est-à-dire, après c'est des niveaux de cruauté, mais je pense que... Parce que dans mon écriture, par exemple, il y a toujours ce couple-là, c'est-à-dire ironie et violence. Et je dis que l'ironie répare la violence, c'est-à-dire c'est peut-être une forme de baume. Important, comment pour accéder à cette matière-là, et que l'écriture qui ne s'arrête pas de transgression des formes d'émancipation à l'inventaire de subversion, où l'enjeu de l'écriture devient aux instruments de libération. Important, transgression.
Les documents de la grenouille.
Vous écoutez Radio Grenouille sur le 88.8 ou sur le site internet radiogrenouille.com, ou simplement vous nous écoutez ici à Montevideo, car nous sommes donc en direct de Montevideo dans le cadre du festival Actoral, et Mustapha Benfodil est en train de parcourir le livre Le Point de vue de la mort, et je crois qu'il va nous faire une lecture, un extrait.
J'ai entendu aussi ce qu'a dit l'imam. La prière du mort est interdite aux suicidés. Et la toilette mortuaire n'est pas faite pour ceux qui ont désespéré de la clémence du Très-Haut. De toute façon, appuyait-il, il n'y a rien à laver en lui. Son corps n'est plus que cendre et son visage n'est que ténèbres. Lui que le Créateur a gratifié d'une si belle allure. Je me suis farci son prêche en me pinçant le nez. À l'entendre, je serai Iblis en personne. Ne le touchez pas, ne le lavez pas, ne le pleurez pas, ne le veillez pas, ne le priez pas sur sa dépouille. Il périra 10 000 fois par le moyen qui s'est choisi et mijotera dans le feu jusqu'au jugement dernier. Ma foi, avec lui, j'aurai eu droit au jugement premier. Petite hors-d'œuvre lynchage avant le grand méchui eschatologique. Après les foukas du juge, les conneries du moufti. Le mec se demande, Balbala brûle-t-elle? Mais cheikh, si c'est haram de se brûler, alors autant interdire l'enfer que vous nous promettez à tout va. Et puis vous dites vous-même que le feu purifie. Justement, j'ai décidé de suivre une cure d'initiation. Initiation à la morale du feu. J'ai décidé d'être comestible, combustible, cru ou cuite, ma viande n'a que du bon. Je vous fais offrande de mes organes obscènes. Quant aux membres de la piété, j'en fais un joli fétu pour mieux m'embraser. Ainsi donc, vous allez m'interdire la prière du mort. J'allais justement vous conjurer de ne pas poser votre verbe sur ma dépouille. Je ne sais comment vous rétribuer pour cette conjonction des doutes. Je doute de votre barbe autant que vous de ma dignité. Je me déclare flamme, fourneau, géhenne et brasier. La servitude volontaire est un sport facile. Or, je n'aime que les joutes qui tuent. Je n'ai certes pas les cocardes d'un gladiateur, mais j'ai un sens aigu du sacrifice. Vous dites que je n'observe pas le carême. Détrompez-vous, je sais jeûner. Sauf que mon ramadan est militant. Je fais de la faim mon glaive quand vous faites de votre panse le réceptacle de vos copieuses ripailles. Et je boycotte le ciel pour ne pas dépendre des bonnes fientes des oiseaux. Je n'attends ni cigogne ni bourourou pour changer de signe. Je ne cherche ni bon ni mauvais augure. Je veux simplement souffrir à bon escient. Vos houris sont belles, mais plus belles encore mes illusions. Et je ne désespère pas de voir au moins l'une d'elles se transformer en hirondelle, même si elle fait seule le printemps. Au final, cher imam, je vous sais gré pour cette promotion. Vous m'avez érigé un bûcher quand je n'étais qu'une rumeur. Vous me prédisez l'enfer ? Pourquoi ? Là, on est où ? Vous me faites rire, cheikh. Les châtiments divins pleuvent de partout au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et vous osez me prédire plus cruelle fin. Eh bien, s'il existe condition plus infâme, je me conduirai tête baissée au grand four crématoire divin. Permettez pour l'instant que je constate que c'est bien ici qu'habite l'Apocalypse. Alors, avant même que vous décrétiez mon âme impropre à la musulmation, je vous déclare impropre à la liberté.
Merci. Mustapha Benfodi, c'était un extrait du Point de vue de la mort. Oh, quelques mots sur l'anti-livre. D'abord, ce titre, anti-livre.
Oui, ça s'appelle anti-livre, fragment de déchets littéraires. En fait, c'est... Justement, c'est un travail qui fait totalement écho à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure par rapport aux enjeux de l'écriture. Et en gros, c'est un travail dans lequel je questionne le rapport de l'écriture à deux pouvoirs, le pouvoir économique, c'est-à-dire le marché. Et en l'occurrence, je questionne un signifiant très fort, très présent dans, justement dans, par rapport au marché, c'est le pilon, la mise au pilon des livres. Et puis il y a le pouvoir politique. Et là, justement, vous parlez tout à l'heure de Jaout. J'aborde la question de ce que j'appelle le pilon politique, c'est-à-dire la destruction même de l'acte d'écrire à l'intérieur des esprits, que ce soit en amont, c'est-à-dire par tous les processus de production et de diffusion qui empêchent les livres d'exister, ou en aval par la censure. Et puis il y a cette forme totalement abjecte qui est la destruction des écrivains eux-mêmes, c'est-à-dire du corps des écrivains par la liquidation physique. Et en l'occurrence, j'aborde la séquence des années 90 où il y a eu plein d'écrivains, d'artistes, de chanteurs algérien assassiné. Donc ça, c'est un peu le, on va dire, le substrat politique, philosophique, mais techniquement, c'est un livre en fait qui est raconté par un livre. Donc c'est un livre, le narrateur lui-même, c'est un livre qui échoue au pilon et qui en amont, il va raconter un peu dans quelles conditions il a été écrit. C'est un peu pour dire que le travail que l'on fait en tant qu'auteur pour construire un objet littéraire, ce travail il se trouve foutu en l'air en l'espace de quelques secondes. Il faut savoir, par exemple, en France, qu'il y a à peu près 100 millions de livres qui sont détruits chaque année, qui sont envoyés au pilon chaque année, qu'aujourd'hui, la durée de vie d'un livre, d'une œuvre littéraire, n'excède pas les 1 à 2 mois en librairie. Et donc, ce sont ces processus-là que j'essaie d'aborder, mais là aussi, ce n'est pas d'une manière, on va dire, catégorique. C'est un cheminement. Donc c'est pour ça que c'est une œuvre totalement fragmentaire et c'est une écriture par flash qui consiste à casser justement à casser une forme de narration dominante. Voilà.
Mustapha, un poète peut-il mourir ?
Je pense qu'il peut mourir de mille et une manières. Oui, peut-être la plus courante et la plus vulgaire, c'est que les poètes cesse d'être entendu. Donc c'est justement toute la question que j'aborde, c'est-à-dire comment on conditionne la mort de la littérature dans les sociétés modernes.
Vous venez
venez d'entendre une archive de Radio Grenouille, archive d'émissions réalisées lors des précédentes éditions du Festival Actoral. Plus d'informations sur la programmation du Festival Actoral qui se déplie donc du 24 septembre au 10 octobre, www.actoral.org. Et vous pouvez bien entendu retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com.